var det ju. Aj, aj, aj,
aj. Le Yiddish aujourd'hui. Chanson, musique, littérature, théâtre, événements, actualité. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour, shalom aleichem, aleichem shalom. Voilà, c'est Annette. Aujourd'hui, Astrid n'est pas là. Nous continuons notre série sur Pourim, hein, qui se rapproche. Et donc, j'ai trouvé là un passage qui parle de Pourim dans le livre de Israël Yoshua Zinger, D'un monde qui n'est plus, traduit du yiddish par Henri Lévy, des éditions de Noël. C'est d'ailleurs un livre qui est épuisé. Israël Yoshua Zinger est né en 1893 et mort prématurément en 1944. Il est connu comme le frère du prix Nobel Israël Bashevis-Zinger, qui est Isaac Bashevis-Zinger, bien sûr, qui est beaucoup plus jeune que lui, hein, qui a 10 ans de moins. Mais c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un très grand auteur, tout à fait intéressant, qui n'a pas du tout le côté mystique avec les démons et tout ça de Bashevis-Zinger, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très très rationaliste et qui l'était déjà depuis sa prime enfance. Et c'est aussi quelqu'un qui a très mal supporté le joug, on peut dire, de la Torah. Hein. C'est-à-dire que depuis sa prime enfance, il aimait bien être dehors, il aimait bien s'amuser avec des autres garçons et que des juifs et des non-juifs, et il se faisait tout le temps réprimander par ses parents, alors qu'il était en même temps très doué pour l'étude, et d'ailleurs, ensuite, il a vite quitté ses parents, il s'est éloigné de la religion, mais il a écrit une œuvre importante qui parle évidemment des juifs. Hein. Je vais vous citer quelques livres, Yoshe le Fou, Les frères Ashkenazi, également La famille Karnowski. Toujours des romans très, très psychologiques, très, très bien fouillés, où les personnages ont tous un statut, une psychologie, et puis un parcours très intéressant. C'est vraiment des grands romans classiques. Il a aussi écrit des nouvelles, et nous avions mis en scène, une des nouvelles qui s'appelle « Quand Wolf, fils de Hirsch, devient Willy », qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui adore la campagne, qui adore les chevaux. Je pense que c'est un peu un double de Israël Yoshua, qui finit par émigrer aux États-Unis et par devenir paysan, jusqu'à ce que ses parents viennent le rejoindre. Donc là, ça se passe après la guerre de 14. Hein. Les parents viennent le rejoindre et remettent en route toute cette religion juive que lui avait rejetée. Voilà, donc c'est une nouvelle un peu ironique. Et nous l'avions montée avec la chorale Omerzingen sous le titre de « Le paysan juif ». Voilà, donc là, c'est, comme j'ai dit, « D'un monde qui n'est plus hein, ». Donc son autobiographie, qu'il a commencé et qu'il n'a pas pu terminer puisqu'il est décédé donc en 1944. Donc, ce livre parle de ses années d'enfance, jusqu'à ce qu'il ait à peu près une dizaine d'années. Hein. Et c'est... c'est intéressant parce que je trouve que les gens qui ont écrit leurs mémoires, enfin, ou des histoires se passant dans le shtetl avant la guerre de 39-45 et avant la Shoah, ont souvent une vision assez noire, assez critique de ce monde et en montrent un peu les défauts, alors que ceux qui ont écrit après la Shoah, et en particulier, bien sûr, Isaac Bashevis-Zinger ont un petit peu tendance à embellir les choses et embellir à la fois par la distance et aussi par la volonté de rendre hommage à tous ces gens qui ont disparu dans la Shoah et donc de manière très violente et qui sont morts jeunes. Donc vraiment l'idée de leur rendre hommage, de leur rendre vie. Et donc souvent il y a quelque chose d'un peu, qu'ils embellissent la réalité. Alors que Israël Joshua écrit, lui, en pleine guerre, mais on ne sait pas encore ce qui s'est passé avec les Juifs, enfin, on ne sait pas clairement. Et il a une vision assez critique, comme je disais, de ce monde. Donc je vous lis ce qui est sur la quatrième de couverture, qui est vraiment un bon passage pour montrer un petit peu l'ambiance de ce livre. Notre foyer était triste et c'est pourquoi tout petit déjà, je préférais vivre dans la rue plutôt que chez moi. Cette tristesse, c'était d'abord la Torah qui en était responsable. Elle remplissait le moindre recoin de la maison et pesait lourdement sur l'humeur de tous. C'était plus une maison d'études qu'un chez-soi, une maison de Dieu plutôt qu'une maison d'homme, oui. Alors c'est vrai que Israël Joshua a aussi connu les années où la famille était le plus misérable, vivait dans un tout petit village. Et les deux parents étaient des gens qui étaient très détachés des réalités. Il explique que sa mère ne faisait vraiment pas bien à manger. Son père était plongé en permanence dans l'étude, dans les chidushim. Ils vivaient vraiment dans la misère et lui supportait tout ça assez mal. Alors là, le passage donc que je vais vous lire qui concerne Pourim commence par une panoplie de portraits de Melamdim. Hein. Donc les Melamed, ce sont les enseignants des enfants petits, hein, c'est-à-dire on mettait les enfants au cheder, donc à l'école religieuse juive, peut-on dire, dès 3 ans, 4 ans. On leur apprenait à lire, on leur apprenait à déchiffrer le chumash, c'est-à-dire le Pentateuque, phrase par phrase, c'est-à-dire « Bereshis bara in onheib got hot bashafen ». Voilà, donc en traduisant en yiddish, chaque fois, petit passage par petit passage, sans tenir compte de la grammaire, de la construction des phrases. Mais bon, ils finissaient quand même par savoir très bien tout cela. Et les gens qui étaient chargés d'enseigner à ces enfants étaient souvent des personnes qui n'avaient pas trouvé autre chose à faire. Ils étaient assez méprisés dans la communauté et ils étaient souvent très perturbés. Enfin, lui décrit toute une série de melamdim, justement, l'un pire que l'autre. Alors, je vais vous lire un petit peu le passage qui commence ce chapitre. Donc, c'est le chapitre 6 de ce livre. « À chaque nouvelle période scolaire, pour les jours ouvrables de Soukhot ou ceux de Pessah, oui, alors il faut savoir que l'année scolaire juive, c'était ce qu'on appelle des zmanim, c'est-à-dire des temps. Donc, ça se déroulait... les enfants étaient en vacances, disons, de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Soukhot. Et après, de la fin de Soukhot jusqu'à Pessah, il y avait un premier semestre, oui, un premier zman. Ensuite, il y avait les vacances de Pessah. Et puis, de Pessah jusqu'au Rosh Hashanah d'après, il y avait de nouveau un zman. Donc, il n'y avait pas d'interruption pendant les mois d'été. Mais chaque fois, on pouvait avoir un nouveau melamed, hein. Donc, à chaque nouvelle période scolaire, je reprenais confiance car on m'enlevait un melamed pour louer les services d'un autre dans l'idée que le nouveau serait meilleur que l'ancien. Chaque fois, j'étais déçue dans mes espérances. Les nouveaux n'étaient la plupart du temps pas meilleurs que les anciens. Les premiers jours, chacun d'eux était bon pour respecter apparemment le principe qu'un bal est neuf, bal est bien. Mais passé les premiers jours, ils montraient leur vraie nature. Notre bourgade n'avait pas de chance, question melamed correct. Est-ce que parce que des melamed corrects ne venaient pas dans un tel trou perdu, ou parce qu'en général il n'existait pas de melamed correct, vu que seul un raté ou un bon à rien qui ne réussissait à rien d'autre se faisait alors melamed. Quoi qu'il en soit, j'ai eu de bien mauvaises expériences avec mes melamed. Le premier, Reb Meir, avait l'esprit dérangé. Voilà, donc il décrit très bien comment ça se passait avec ce melamed. Les autres melamed n'étaient pas fous, mais chacun avait son grain. Donc voilà aussi Bon, plusieurs mélamèdes. Et finalement, on arrive à celui dont il s'agit, qui est quand même, finalement, plutôt bon. Reb Michel était un petit bonhomme plein de vie, avec une barbe blonde clairsemée, un homme qui était comme du vif argent. Tout en étudiant, il aimait à sculpter des choses de son petit couteau. Tantôt, il sculptait des boîtes à tabac en écorce qu'il offrait en cadeau à de vieux juifs. Tantôt, du bois, il tirait une boîte à cédra. Il avait des mains en or pour toutes choses. Il réparait de petites montres, mettait une petite chaîne si elle s'était détachée. Ensuite, il dit qu'il avait aussi le don de raconter des histoires. Pour nous aussi, les gamins, il racontait une foule d'histoires, les plus merveilleuses histoires de tzadikim et de thaumaturges qui prenaient des raccourcis dans les temps et l'espace. Ces thaumaturges devaient toujours faire la guerre à des magiciens, des prêtres goy qui se déguisaient en loups-garous et voulaient faire du mal aux juifs. Il nous racontait de façon fantastique les hauts faits des fils de Jacob. Naphtali courait si vite dans la campagne que même un cerf ne pouvait le rejoindre. Simon et Lévi, les deux frères unis par la pensée, pouvaient de leurs seules épées vaincre tous les ennemis de leur père Jacob. Judas grondait comme un lion. Quand Joseph arrêta Benjamin en Égypte et ne voulut pas le rendre, Judas s'approcha de lui et lui parla ainsi. « Je te prie, mon Seigneur, de ne pas faire éclater ta colère, car tu es comme Pharaon. Et de la même façon que je n'ai pas peur de Pharaon, je pourrais le tuer avec le petit doigt et toi aussi je pourrais te tuer. » Et Judas déchira sa chemise et montra son cœur puissant, fort comme celui d'un lion. C'était une joie d'étudier auprès de ce Michel David, mais la joie ne dura pas longtemps. Voilà, donc on va s'interrompre pour écouter une musique. Donc c'est un air sorti de, ça s'appelle The Russian Chairs, oui c'est en anglais, mais c'est de la musique klezmer sans paroles. Et c'est un groupe qui s'appelle Babanou Quartet. Et le disque s'appelle Svonia Svonia. Donc, ce sont des Polonais qui chantent en polonais, qui chantent en yiddish. Je me demande s'ils ne chantent pas aussi un petit peu en anglais. En tout cas, ça, c'est un air sans parole. The Russian Chair. Voilà, donc une musique joyeuse qui est en accord avec la fête de Pourim. Quand arriva Pourim, Reb Michel David laissa complètement de côté le Talmud et se mit à préparer joyeusement la fête. D'abord, sur le mur de l'est de la maison d'études, il dessina et peignit avec une chandelle de suif de grandes lettres et images. Au début, nous ne pouvions voir ce qu'il avait dessiné, car le suif blanc ne se détachait pas sur le mur blanc. Mais le maître plongea un chiffon dans la cendre du poêle et repassa avec du suif, et aussitôt les lettres et les dessins devinrent noirs et bien visibles, et nous vîmes une grande inscription « Miché Nirnes Oder Marbim Besimre », ce qui signifie « Dès qu'on commence le mois d'Adar, il faut commencer à se réjouir ». Sous la belle inscription en lettres hébraïques calligraphiées était peinte une bouteille d'eau de vie et deux mains levant deux verres à la santé. Fidèle à son inscription, Reb Michel David porta bien des santé avec les chassidim. Au Heider, il étudia avec nous le rouleau d'Esther, tout en sculptant pour nous les élèves les plus belles crécelles. Les deux jours de Pourim et de Shushan Pourim, Reb Michel David mit vraiment la bourgade sens dessus dessous. Quand on lut le rouleau d'Esther dans la maison d'études, il rassembla tous les garçons. Pas seulement les élèves à lui, mais même d'autres. Il chahutait avec nous en agitant sa crécelle chaque fois qu'on mentionnait le nom d'Aman. Lui-même s'était fait la plus grosse crécelle. Il trépignait également, et pas seulement au nom d'Aman, mais aussi au nom de sa femme de Aman, Zeresh, et de leurs 10 fils. Il faisait merveille quand on mentionnait le fils des vieux jours de Aman, Vaizos. Qu'un juif barbu agita la crécelle dans la maison d'études nous mit en joie, nous les gamins. Il s'en fallut de peu que nous démolissions la maison d'études. Mon père se montra même mécontent parce que nous dérangions le lecteur dans sa lecture du rouleau d'Esther. Mais il ne s'irrita pas. On ne pouvait s'irriter contre le joyeux Michel David. En août, c'était quand même pourri, mais ce jour-là, il est prescrit de se réjouir. Après la lecture du rouleau d'Esther, Michel David commença à parcourir le shtetl, allant d'une famille à l'autre comme pour mendier et porter des santé. À Shushan Purim, il rassembla les chassidim et fit la fête. Les chassidim ne se firent pas prier. Comme à leur habitude, ils étaient toujours prêts à un petit repas de fête, à une réjouissance. Ils achetèrent un tonneau de bière et burent autant qu'ils pouvaient. Ils subtilisèrent aux mères de famille, warouti, gâteaux, poissons marinés et toutes les bonnes choses. Ils allaient de maison en maison, manger, buvaient et danser. Les gamins suivaient en courant, s'accrochaient aux ceintures de leurs pères, se glissaient dans la ronde des juifs bondissants. Les juifs ordinaires, les misnagdim, donc ceux qui étaient opposés aux chassidismes, regardaient de travers ces liesses chassidiques. Mais les chassidim n'y faisaient pas plus attention que Haman à la crécelle, donc ça c'est une expression yiddish de dire on l'écoute comme Aman écoute la crécelle, c'est-à-dire on n'écoute pas. Il chantait, il dansait encore plus fort. Michel David dansait dans la rue. Finalement, les chassidim entrèrent chez mon père. « Rebetzin, donnez-nous de la compote de pruneau !» cria Michel David. « Les juifs veulent manger, que le démon emporte Haman, Zeresh et leur dit bâtard !» Ma mère apporta de la compote de pruneau. Michel David cria qu'il fallait percer un nouveau baril de bière. Les deux plus grands fêtards parmi les chassidim, Traitl le mercier et Moïse Mendel le boucher, partirent chercher un nouveau tonneau de bière. Puis tous deux tournèrent leur casquette du côté gauche, prirent des bâtons, s'assirent sur le sol et chantèrent des chansons de mendiants bel et bien en polonais. Ensuite, ils présentèrent une assiette comme si c'était une sébille et on y jeta l'argent du tonneau de bière. Traitl et Moïse Mendel prirent l'argent et remercièrent comme des mendiants goy en imitant les pieuses paroles d'une bénédiction goy. Michel David, rapide comme une flèche, monta sur la table et commença à danser une cosaque. Ma mère voulut enlever la nappe, mais Michel David ne la laissa pas faire. Rebetzin, à Pourim, on a le droit de danser sur la nappe. Le drap diable emporte Haman et tous ses pères jusqu'à Amalek, cria-t-il, et il trépignait sur la table. Puis il sauta en bas de la table, s'enveloppa dans la nappe comme dans un châle de prière et se déguisa en ange. Rebetzin, je suis l'ange Michel. Donnez-moi 2 plumeaux, je m'en ferai des ailes. Ma mère, fille de Misnaged, ne voulut pas donner 2 plumeaux. Mais il ne renonça pas et entra lui-même dans la cuisine. Il se trouva deux ailes d'oie qu'il attacha avec des ficelles à la nappe pour avoir l'air d'un vrai ange. Puis il prit une poignée de farine et s'enfarina la figure. Pourquoi un ange doit avoir la figure enfarinée, je ne sais. Il commença à danser une danse angélique. Il planait dans les airs comme un esprit. Les autres frappaient des mains et s'exclamaient joyeusement « Vive l'ange Miroël !» Tout à coup, l'ange Miroël étendit les bras comme si c'était des ailes et sortit par la fenêtre en volant. Quand il rentra, ce ne fut pas sur ses pieds. On le portait. Ses yeux si vifs étaient fermés, d'un œil coulait du sang. Ce n'était pas la chute qui l'avait blessé parce que la fenêtre n'était pas haute. Une vitre s'était cassée quand il avait sauté et un éclat de verre était entré dans l'œil gauche. On le transporta dans sa nappe avec ses deux plumeaux et on l'allongea sur un lit. On appela le barbier chirurgien Goy qui habitait dans le voisinage. L'homme lui dit, « Je ne peux rien faire, son œil se vide. » Reb Miroël David ne répondit pas. Son visage enduit de farine semblait celui d'un mort. Mon père était frappé de stupeur, ma mère pleurait. Au milieu de ses pleurs, elle se souvint qu'il fallait allumer les bougies, car Shushan Purim tombait cette année-là un vendredi. Elle dit les bénédictions sur les bougies de Shabbat en pleurant. Je regardais mon maître qui était couché, allongé sur la couverture verte. Ce fut un Shabbat noir. On appelle Shabbat noir donc les Shabbats où il s'est passé des choses négatives, souvent des pogroms, bien sûr. Mon père ordonna à l'un des jeunes compagnons boulangers d'atteler des chevaux et une voiture malgré le Shabbat et de conduire le Melamed blessé à Zaratchin où il y avait un docteur. Reb Miroël David ne revint plus au shtetl. Comme nous l'apprîmes de juifs qui le virent par la suite, il resta borde de l'œil gauche. Voilà donc une histoire qui commence joyeusement mais qui se termine mal. Voilà, ben écoutez, c'est la fin de notre émission, donc je vous dis shalom aleichem, à la semaine prochaine et merci Thomas.